dernières secondes avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Exactement, midi 46 sur Québec. Vous êtes à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Pascal, avant qu'on passe à nos deux invités, on va avoir une conversation tellement intéressante avec la docteure Emmanuelle Britton. Tu sais, j'ai sorti mon accent anglais. Et également Martin Forgue, qui est un haut placé, un cadre au niveau du ministère de la Santé. La discussion qu'on vient d'avoir, les extraits de Christian Dubé, tout le monde en parle, la discussion avec Marc Tanguay, la façon qu'on a fait des choses, Pascal, mon Dieu, il y a donc bien des gens qui ont réagi par texto.
Oh oui, 88-971-1021, rougit énormément quand on vient à parler de ce projet de loi-là. Entre autres, on essaie de poser la question, comment faire tourner le paquebot? Marc Tanguay n'a jamais voulu répondre à votre question. On nous le souligne au 88-971-1021. On dit, dans sa conclusion, on dit que les Québécois auront de meilleurs soins si le PLQ est élu. C'est exactement ce que la CAQ promettait avant les élections. Est-ce une mission impossible? Quelqu'un d'autre qui dit, pourquoi on entend toujours Marc Tanguay maintenant que Pablo Rodriguez a été nommé? Où est-il
on le cache,
ce
le
matin?
Chef. Oh oui, qu'on le cache, parce qu'il ne livre pas à marchandises. Je les ai en fin d'entrevue. Je dis, ouais, moi, je suis pas impressionné par Pablo Rodriguez.
Je te le dis, un bon Québécois, c'est un paquet de merde.
Oui.
C'est un paquet de merde, le sujet d'aujourd'hui. Ça fait des années que c'est complexe. Mm-hmm. Combien de ministres de la Santé ont croulé en ayant entre les mains
ce
terrain de jeu-là? Ouais. Je ne vais pas dire comme ça. Mais on pensait qu'avec M. Dubé, il allait avoir plus de concertation avec les gens du milieu. Je pense que là, le bas blesse encore. On a des gens qui soulignent à quel point ça brime les droits et libertés. D'autres qui souhaiteraient que les réponses qu'on ait posé, soit posé plus souvent, mais surtout répondu. Quelqu'un aussi qui parle du fait qu'on a de la concurrence ailleurs et que le gouvernement québécois semble pas être conscient de ça en imposant aux médecins ce qu'on vient de voter du côté du baillon en fin de semaine.
Moi, Pascal CV, j'ai été gestionnaire pendant une vingtaine d'années dans les organisations publiques et j'ai toujours aimé quand mes employés venaient me voir et me dire « Jeff, t'es sûr que tu vas prendre cette décision-là? » Parce que moi, là, sur le terrain, je la sens pas, celle-là.
Oui.
Pour telle raison. Puis là, je faisais, ah, regardons ça, on va réviser le plan, on va rencontrer du monde, on va... Ben, sais-tu, ça existait avec le projet de loi 106, qui est maintenant le projet de loi spécial.
C'est dur de plaire à tout le monde, Jeff.
Oui.
Puis c'est pas comme ça qu'on avance. Par contre, là, on entend une grogne qui est collective. Là.
Ben, une grogne à... Il y a 100% de grogne chez les médecins.
Il y a une chose que je n'ai pas vue encore, c'est préposé aux bénéficiaires, infirmiers, infirmières, sortir énormément pour appuyer les médecins. Que se passe-t-il? Est-ce qu'ils ont le droit de parler ou c'est encore ça qui fait en sorte qu'ils sont muselés, qu'on n'entend pas ces gens-là aussi?
C'est quoi demain, 13h30, Jenny Boutet, une infirmière au niveau du CHU de Québec, va venir s'asseoir avec nous pour nous parler de
Bravo pour le courage.
Oui, Jenny va avoir énormément de courage avec nous. Mais là, en attendant, Pascal, je te présente la docteure Emmanuelle Britton et Martin Ford, qui travaillaient respectivement comme médecin conseil et directeur général adjoint au ministère de la Santé pour le projet de loi 106. On leur a dit bye-bye, tu penses pas comme nous. Madame Britton, bon début d'après-midi, bon midi.
Bonjour, merci de nous inviter. Ça va bien?
Oui, ça va très bien. Vous, M. Forgue, merci de vous rendre disponible pour nous.
Ça me fait plaisir. Bonjour à vous deux.
Excellent. Madame Britton, je commencerai avec vous. Vous êtes médecin dans la région de l'Outaouais. Vous étiez justement sur le, je vais le dire comme ça, sur le projet du projet de loi 106. Pourquoi on a décidé de vous dire, ah, savez-vous quoi, Madame Britton, retournez à votre clinique, ça ne fonctionne pas?
J'amènerais une précision. Ouais. Je n'ai pas été sur le dossier du projet de loi 106. Ce qui est important à le nommer, parce qu'effectivement, moi, pour juste clarifier rapidement, moi, j'ai appris du projet de loi 106 en même temps que la population. Mm-hmm. Donc, moi, je suis beaucoup les médias et je vous remercie d'être présent parce que malheureusement, ben, moi, j'ai su du PL 106 en même temps que la population du Québec. Moi, je suis médecin de famille, effectivement, en Outaouais. Je suis médecin conseil depuis 2023 à 4 jours semaine au ministère de la Santé. Donc, je travaillais d'autres gros dossiers, pas pour tout vous les nommer, mais des gros dossiers dont le premier qu'on est venu me chercher, c'est M. Ford qui est venu me chercher en Outaouais dans mes postes pour le modèle de soins au Québec. Le statu quo n'était plus ce que nous désirions, ce que la population mérite. Et effectivement, comme qu'on voit et on a des échos de nos provinces avoisinantes, on avait effectivement toute l'intelligence collective au Québec pour se parler, se concerter et faire avancer un modèle qui, effectivement, pour chaque région, si bien réfléchi, bien mobilisé, engagé, on arriverait à avoir un accès à 100% de la population par le bon professionnel. Donc, ça a été mon gros dossier avec les équipes, entre autres, parmi d'autres. Puis là,
Oh, malheureusement, Mme Britton vient
on s'est
d'avoir des...
concerté ensemble pour ceci. Et donc, on avait effectivement une table nationale pour amener et valoriser les étudiants qui choisissent la médecine de famille, ceux qui sont proches de la retraite, les garder. Et donc, vous pouvez imaginer avec ces deux gros dossiers-là, ben, d'apprendre le PL 106 et ensuite d'en prendre connaissance de son contenu, ben, comme dans mon titre de médecin conseil, et j'ai beaucoup de rigueur et de questionnement. Donc, je pose des questions. J'amène des expériences terrain par rapport à comment l'interpréter, comment l'appliquer, comment l'expliquer. Puis effectivement, ça a été un environnement dans le passé où est-ce que c'était bien accueilli. Moi, je pensais que tout allait bien, tout allait pas bien avec le PL 106, mais de pouvoir le nommer et l'adresser.
Oui, vous pensiez qu'il y avait une communication ouverte là, avec les jeunes du ministère.
Effectivement, à l'interne du ministère. Mais à ma grande surprise, le 20 juin, qui ça la donne, était le lendemain de la table nationale de valorisation de la médecine de famille au Québec. Donc, j'étais en personne avec Martin Fogg et les organisations pour essayer de faire avancer la médecine de famille au Québec. Moi, je pensais que c'était un suivi par rapport à ce sujet-là avec le sous-ministre adjoint, Dr. Stéphane Bergeron, mais on m'a tout de suite annoncé, il m'a annoncé en séance tenante que ça serait une rencontre difficile et que, étant donné que j'avais vocalisé beaucoup d'inquiétudes en lien avec le projet de loi 106, que mes valeurs et mes convictions ne tiendraient pas avec le PL 106 dans sa forme actuelle ou l'évolution du PL 106 à venir. Et donc, on m'a remercié pour mes services et ça faisait fin à toutes mes contributions en séance tenante au ministère. Donc, retourner être médecin de famille en Outaouais.
Merci. On revient à votre dossier, justement, dans quelques instants. Je vais entendre M. Martin Fogg. M. Fogg, quand on s'est parlé hors d'onde, je comprenais. Là, vous, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a tabletté pour le moment parce que vous questionnez justement ce projet de loi-là.
Il faut comprendre que ça faisait plus de 2 ans et demi. Là. Je vous écoutais tout à l'heure parler des partis qui prennent des engagements, mais je peux vous assurer que j'avais jamais vu un exercice de mobilisation depuis les 2 dernières années où tous les professionnels de la santé, incluant les médecins, souhaitent que l'ensemble de la population puisse avoir accès à des soins et services. Et c'est de cette façon qu'a été construit tout le la nouvelle organisation qui était souhaitée. Et là, je vais faire l'analogie. Ce qui était souhaité, puis on utilisait beaucoup l'analogie de l'école, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez avec votre famille sur un territoire, dans une localité, vous ne posez pas la question si vos enfants vont avoir accès à l'école. Vous savez qu'ils vont avoir accès à l'école. Alors, on avait la même approche, c'est-à-dire que dorénavant, quand je demeure sur un territoire puis il y a une clinique, bien, on m'assure d'avoir accès à la clinique. Pour mettre en place ce modèle-là, il avait été convenu avec tous les autres professionnels et les fédérations médicales qu'on devait construire des équipes. Équipes médecins, bien entendu, qui est la pierre angulaire, mais médecins avec pharmaciens, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, pour nous assurer dans un premier temps que quand j'ai un besoin, j'ai un certain besoin, bien, qu'on puisse évaluer mon besoin et me diriger au bon professionnel de la santé. Hein. On parlait hors d'onde du hockey, ben, j'ai une blessure au genou, c'est probablement un physiothérapeute que j'ai besoin, puis on ne voulait pas qu'on soit inscrit sur une liste d'attente. Besoin de voir un physiothérapeute à l'intérieur de 2 jours, ben, je vais avoir un rendez-vous à l'intérieur de 2 jours avec le physiothérapeute. Mais pour réussir ce modèle-là, il fallait nous assurer d'avoir l'ensemble des professionnels. Et vous le savez, là, je ne dévoile pas un secret d'État, les professionnels actuellement, il en manque dans le réseau. Alors, ça prend... On avait convenu qu'on allait construire ce nouveau modèle d'organisation clinique-là sur une longue durée de temps, tout comme en Ontario. On avait déjà un pas d'avance sur l'Ontario. Et l'Ontario, ben, ils vont le construire sur 5 ans. C'est pratiquement la même affaire qu'on veut bâtir là, au Québec. Moi, mon inquiétude, ben, c'est ça. Il est arrivé le projet de loi 106 et j'ai manifesté mon inconfort sur le moyen. Parce qu'on était tout prêt, on était même prêt à démarrer des projets pilotes, Rivière-du-Loup, Saint-Donat, Montréal. Alors, on était tout prêt de tester le modèle, puis on pouvait
y
aller.
Et ça avait été discuté, là.
Tout à fait. Okay. Oui.
Pourquoi on est allé aussi vite, vous pensez? Est-ce que c'est parce qu'on est en campagne électorale, puis on voulait rapidement boucler la boucle, même si on allait faire tourner les coins ronds? Qu'est-ce qui vous permet de penser que c'est le gouvernement est allé aussi vite?
Ouais, je trouve que je veux faire quand même attention de garder un certain droit de réserve, vous comprenez, dans la situation que je me retrouve actuellement. J'ai juste exprimé, comme je le disais tout à l'heure, que la façon de, si on procède trop rapidement, on risque de briser, puis c'est mon inquiétude, c'est qu'on brise tout ce qui avait été construit avec le terrain. Pour quel agenda? On n'a jamais répondu à cette question-là. Et comme l'a dit Dr. Breton, on m'a fait savoir le 20 juin au matin qu'il y avait un malaise, il y avait beaucoup de plaintes du cabinet du ministre, il y avait beaucoup de plaintes du sous-ministre en titre quant à mon inconfort du projet de loi 106 et les questions que je posais. Et on mettait fin immédiatement à mon prêt de service. J'étais rencontré, je crois, à 9h30 le matin et on me demandait de quitter les lieux à midi.
Avez-vous été le seul à qui on a dit merci beaucoup, on a fait le tour avec vous?
On était les deux seuls qui osaient poser des questions parce que vous comprenez que moi, je ne l'avais jamais vu là, à l'intérieur du ministère de la Santé depuis 2 ans. J'étais là pendant 18 ans. Depuis 2 ans, il y avait un problème sérieux de communication. On ne nous a même pas présenté à l'intérieur du ministère de la Santé le contenu du projet de loi 106. J'avais aucune tribune. On n'avait aucune tribune, Dr. Breton et moi. Et à l'intérieur de la direction générale, on nous a proposer de poser des questions, puis là, on sentait de plus en plus un inconfort. Ce que le docteur Bergeron m'a clairement indiqué, que ça créait même un inconfort à l'intérieur de notre propre direction. Alors, c'est une forme de loi du silence qui s'est imposée, et aussi une rupture complète entre les experts du ministère de la Santé et l'équipe politique, et aussi plus de pare-feu hein, entre le sous-ministre en titre et le volet politique.
Que vous étiez les deux
Il
seuls
y a tout.
critiques et vous étiez les deux seuls à vous faire dire merci.
Tout à fait.
Madame
Tout à fait.
Britton, on se sent comment en tant que médecin de famille maintenant, quand que M. Ford nous parle de ce modèle-là, est-ce qu'on va pouvoir l'implanter avec le projet de loi qui est tombé ou ça va être impossible en raison que vous devez aller plus rapidement avec les patients?
C'est une question effectivement, de cette question de quantité versus qualité qu'on entend beaucoup. On n'est pas dans un modèle purement quantitatif, je me permets, là, de comptable ou de chiffres. Les questions qu'on a posées depuis que je le vois effectivement dans le PL 106, puis là, en prenant connaissance de tous les articles et le langage législatif, je ne suis pas avocate, je suis médecin de l'applicabilité. Demeurent les questions de l'applicabilité. Le patient au cœur de ceci, c'est une chose de lui promettre une cible de performance qu'on questionne toujours, elle est basée sur quelle science, quelle littérature. Et la deuxième, ben, c'est effectivement. On lui promet une cible, on lui promet un certain échéancier, mais quand il va réellement appeler, cogner à la bonne porte pour avoir son besoin répondu, j'ai des forts doutes que les effectifs ne seront pas présents. Donc, il faut, comme société, je pense, se le dire. On connaît, on peut faire mieux, on peut faire différemment. Le moyen était effectivement en place. La mobilisation, l'engagement, on était sur la ligne de départ, comme dit M. Fogg, à décembre à 2024. Et ensuite est arrivé cet outil-là, c'est ce moyen-là que nous disons, qui est venu casser le tout. Et là, effectivement, la situation précaire qu'on se retrouvait, qu'on avait malgré tout post-COVID, post-pénurie d'effectifs, arrivé à pouvoir moderniser, innover, valoriser, engager, mobiliser, là, on se retrouve dans le climat dans lequel vous vivez aussi, comme citoyen, citoyenne, et certainement que vous entendez, par les gens qui vous interpellent. Réengager cette confiance-là, réengager cette mobilisation. Tout le monde est de bonne foi, mais ils sont complètement, un, vous l'avez nommé en colère, mais derrière la colère et ceux qui crient, il y a le silence. Puis il y a plusieurs collègues des médecins, mais des médecins leaders aussi, qui étaient ceux qui poussaient ces projets, ces innovations et qui mobilisaient les membres, leurs membres médecins, les membres professionnels, les gestionnaires, etc. On les voit complètement détruits, démobilisés et je crains à savoir si c'est récupérable ou non. J'en ai fait un mandat moi-même quand je suis revenue de l'Ontario. Je suis revenue de l'Ontario médecin de famille pour me dire on va venir servir nos citoyens, citoyennes, mais aussi améliorer les choses. On a rebâti en équipe cette confiance-là envers les établissements, envers le ministère, le
Allez-vous
gouvernement.
repartir en Ontario?
C'est une question qui est très difficile à répondre. Elle est très émotionnelle. Je m'y attendais. Force est de constater, j'avais encore confiance par les processus qui nous avaient été déterminés. L'intelligence collective qu'on connaissait avait pris la parole, J'avais grand espoir qu'on arriverait à quelque chose de meilleur de ce qu'on avait vécu du PL 106, qu'on reviendrait à la raison. Mais force est de constater, puis je suis encore dans un état de choc moi-même à la lecture de qu'est-ce qui s'est passé ce week-end avec la loi 2. J'ai beaucoup de difficultés à essayer de concevoir comment on va pouvoir avancer. Je suis toujours prête à avancer avec ma communauté, mais les patients ont besoin d'être soignés. Puisque pour répondre à votre question qui est difficile, je dois vous l'admettre, j'ai toujours été transparente, j'y songe. C'est une façon de pouvoir contribuer des deux côtés de la rivière, parce que moi, j'ai le privilège de vivre sur le niveau frontalier. C'est une région, Ottawa-Gatineau, mais je veux absolument pouvoir tenter d'aider, mais je ne sais pas comment on va y arriver. Puis pareillement, il faut pouvoir avoir la force de le faire personnellement, tout en demeurant soignant. Donc, je suis en sérieuse réflexion par rapport au futur. Oui.
Rapidement, parce que je me demande comment répondre à cette question-là. Vous êtes assurément émotif dans le contexte. C'est fâchant, on l'entend. Puis vous représentez plusieurs médecins en ce moment qui sont mécontents. Est-ce qu'il y a une chose de bonne dans ce projet-là que vous voyez quand même qui a été appliquée, peut-être chacun votre tour?
Deux commentaires. Le premier, c'est que tous les médecins étaient d'accord pour revoir le mode de rémunération. On disait, on change le modèle d'organisation clinique, on le fait évoluer. Il faut que la rémunération vienne encourager ce mode ce modèle-là. Puis là, je vais vous donner un exemple rapide. Si un médecin allait voir un patient qui aurait dû être vu par un physiothérapeute, bien, sa rémunération allait être moindre parce qu'on voulait s'assurer que les médecins puissent prendre en charge les patients qui doit avoir un médecin. Alors ça, c'est... Et pour changer le mode de rémunération, nécessairement, il fallait avoir une loi pour changer la loi d'assurance maladie. Alors, ça, c'était nécessaire et essentiel. Point.
Je comprends très bien que là, maintenant, on est allé pousser trop loin. Madame Britton, si vous voulez répondre à la question de ma collègue Pascal.
Il est difficile. C'est une réponse similaire à M. Fogg, sans aller dans les détails, par contre, parce que je suis encore moi-même en train de l'étudier. La question du modèle de rémunération, elle a été adressée depuis le début du modèle de soins. On s'est dit au Québec, on se doit de bâtir le modèle de soins qui va répondre aux besoins de nos Québécois. On avait la science, on a les meilleures pratiques nationales, Canada et à l'international, et ensuite, on l'adaptait au contexte québécois, et on s'est dit, on adaptera le modèle de rémunération au modèle qu'on a bâti. Donc, le modèle de capitation, tarif horaire, à l'acte, c'est rien de nouveau. Tout le monde était d'accord. Je ne m'avancerai pas dans les chiffres et les calculs parce que je ne suis pas rendue à ce point-là. Mais on sait que le modèle de rémunération à l'acte était trop ancien. On était tous d'accord depuis des années de le changer et de l'adapter avec les meilleures expériences aussi. Alors, on a regardé la Colombie-Britannique, les autres provinces qui nous devancent maintenant que nous devancions. On l'avait dit à l'interne, on avait tous les ingrédients et tous les gens engagés au Québec pour mettre en place ce qu'on vous présente. On était sur la ligne de départ. On a même dit qu'on devancerait l'Ontario. Une petite touche compétitive, des fois, ça l'aide à faire bouger. Hein? Fait qu'on a mis cette approche-là. Mais force est de constater que maintenant, nous reculons, un recul majeur que j'ai jamais vu dans ma carrière depuis que je suis médecin de famille en Ontario et au Québec. Donc, on aurait dû vraiment se limiter. Je suis pas avocate, est-ce que ça prenait un projet de loi ou non, mais se limiter à ce qui était nécessaire pour arriver à un modèle de rémunération qui fonctionne pour effectivement inciter le travail collaboratif avec les autres professionnels pour que les patients qui ont ce changement-là de voir la nutritionniste, le physio, l'infirmière et j'en passe. Mais effectivement, tant le PL 106 qu'encore plus, encore moins la loi 2 se sont limités là, à ces besoins-là. Donc, présentement, dans sa forme et son contenu actuel, je peux vous dire que c'est pas soutenable, c'est pas durable et on va malheureusement le vivre ensemble, les conséquences de cette adoption-là.
En terminant, dernière question, peut-être qu'on peut vous entendre là-dessus aussi. Vous êtes un conglomérat, hein? Vous ne travaillez pas seul, les médecins, vous travaillez avec une panoplie de professionnels aussi, disons-le, que ce soit des infirmiers, des infirmières, des IPS, des préposés, vous travaillez de concert. Est-ce qu'on vous divise dans ce projet de loi-là? Est-ce qu'on vous sépare des vôtres? Est-ce que ça peut miner ou encore mener une fragmentation à ce niveau-là entre collègues?
Je vous partage qu'on pleure ensemble. Il y en a plusieurs qui ont pris certaines paroles. Il y en a qui ne peuvent pas prendre de prise de parole. Puis je le respecte effectivement. Le risque, il est là, oui. Et on le voit et on le sent. On l'entend quand moi, je suis une grande proponente, je suis une grande fan des IPS. J'ai travaillé avec eux en Ontario pendant plusieurs années. La pratique était beaucoup plus avancée qu'au Québec. Mais on entend de plus en plus qu'on, puis le ministre le fait lui-même, il valorise les IPS tout en dénigrant les médecins sur la place publique. Donc, effectivement, cette division-là, je l'avais commencé à la ressentir même avec le PL 106 dans une collaboration qui était établie, pas aussi établie que celle que j'avais vécue en Ontario, mais qui commençait à être établie de plus en plus là, avec des spécialistes qui accueillent des IPS à l'étage, les médecins de famille. Fait qu'entre nous, ces relations humaines-là, on ne peut pas nous les enlever. Mais c'est sûr que plus il y a des éléments qui viennent cibler qu'un groupe de professionnels, des médecins comme ceci, dans toute gestion de changement, il faut avoir les bons ingrédients, puis ça vient en casser un majeur par rapport à la collaboration interprofessionnelle qu'on visait à avoir dans les conditions antécédentes.
Emmanuel Britton et Martin Forg travaillaient respectivement comme médecins conseil et directeur général adjoint au ministère de la Santé. On les a remerciés au mois de juin dernier parce qu'ils osaient prendre la parole contre le projet de loi 106 qui vient de se transformer en projet de loi 2, une loi spéciale sur le mode de rémunération des médecins. On vous remercie infiniment pour votre disponibilité aujourd'hui à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Puis on vous souhaite bon courage et bon succès là, malgré les embûches que vous avez sur votre chemin présentement.
On vous remercie.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Au revoir.
Pascal, après la pause, on revient dans l'actualité municipale. Mathias Turcotte était sur le terrain ce matin. Il est allé voir une conférence de respect citoyen sur leur plan pour le transport en commun. Donc, on va parler transport en commun, transport structurant. On va regarder ce que respect citoyen nous propose, parce que Bruno Marchand nous propose le tramway. Sam Hamad nous propose le SRB+. Mais qu'est-ce que Respect citoyen nous propose en termes de transport en commun? C'est la question qu'on va tenter de répondre après cette courte pause sur les ondes de Boulevard 102 à l'émission On en jase.